Maurice Strauss, Adam Worth. Bien muni d'argent, sans hâte d'arriver n'importe où, n'importe quand, je pris le chemin de l'Europe en lui tournant le dos. Je fis un crochet autour de Frisco et gagnant Seattle dans l'Oregon, j'y allais flâner sur le port. Un schooner, une goélette, faisait ses préparatifs de départ. Le capitaine me plut par son aspect de brute rougeau et jovial. Les sanguins sont toujours accommodants, et si on ne les contredit pas, alors je l'abordais, et m'accordant avec lui pour le passage, je n'eus que le temps de m'adresser au ship chandler le plus proche, afin que ce fournisseur embarquât de suite le supplément de provisions nécessaire à ma subsistance en route. Et le fin voilier sortit de la rade, le cap sur Honolulu, la capitale des îles Sandwich. Le soir, penché sur le mastingale de la poupe, je regardais fuir le sillage phosphorescent creusé par le navire dans les vaguelettes du Pacifique. Et je méditais. Ainsi, j'ai conçu un petit chef-d'œuvre de mécanique. C'est d'une simplicité enfantine, mais combien ingénieux. Il me tarde de le réaliser. Il me tarde surtout de le mettre à l'épreuve. Que ne pourrais-je tenter avec cet engin? J'ai dans mon bagage tout ce qu'il me faut. Je n'attendrai pas l'arrivée au port pour confier à quelque artisan indifférent et lourd une besogne si délicate. Enfermé dans ma cabine, bien tranquille, je procède à la fabrication d'un outil inattendu, soit dit sans fatuité. Il s'agit d'une canne, une simple canne de promenade. Mais cette canne, je la machine, je la truque, ainsi qu'il convient à ma spécialité d'escamotage. Je possède un jonc à pommes de platine. J'y insère une double baguette d'acier que j'ai pris soin de courber aux deux extrémités après l'avoir aplatie sur l'enclume. Une roulette d'acier dissimulée sous le bouton de la canne commande un engrenage. Je tourne le bouton à droite, la double baguette d'acier sort à l'état de pince ouverte, prête à happer la proie. Je pousse le bouton à fond, la pince se renferme sur la proie saisie. Je tourne la pomme à gauche, la double baguette rentre dans la canne et la pince amène à la marée partait de mes doigts le butin qu'elle a conquis. Ma canne, ma jolie canne de promenade, est devenue une gaule, une canne à pêche. Ce que je compte pêcher avec ça? Bon, des billets de banque, bien sûr. Honolulu est un théâtre trop étroit pour mes premiers exploits. Il me tarde de fuir ces îles Sandwich. Et justement, un steamer est en partance pour le Japon. Je fais mes adieux au bon capitaine de la mer Arnold, le voilier qui m'a amené ici. Au bon capitaine, plus curieux de remplir et vider son gobelet de whisky que de connaître ce que je fabriquais en cours de route dans ma cabine. Et j'embarque en destination du Japon. À Yokohama, au guichet de la British and Japanese Bank, je présente une lettre de crédit. J'ai déposé mon chapeau sur ma canne, sur la table, du comptoir et de mon mouchoir, je tamponne, j'éponge mon front. Ah, cette chaleur! Et cependant, tandis que l'employé examine ma lettre de crédit et compulse son registre, je malheure tout doucement de ma canne de ma canne à pêcher les billets de banque, et j'amène sous mon chapeau une grosse liasse de fivers, billets de 5 livres sterling, soit 25 francs. L'employé a visé ma lettre de crédit. Il me remet une fiche pour le caissier. Je replace mon chapeau sur ma zole qui soutient allègrement le poids léger du trésor. Je vais toucher l'argent qui m'est dû et je parle plus tranquillement du monde après un coup d'œil vers l'employé de tout à l'heure. Il compte, il recompte ses liasses fiévreusement. Nul doute que déjà il ait constaté le déficit. Mais nul doute aussi qu'il soit hors d'état de concevoir le moindre soupçon à mon égard. Oh, peut-être saura-t-il relever les numéros des billets disparus. Peu m'importe. Qu'il les connaisse, qu'il les ignore, je trouverai bien un emploi à cet argent. Je n'en ai pas besoin pour le quart d'heure. En parfaite quiétude, je visite le pays. Je cours me divertir dans les maisons de thé. Puis, fatigué du Japon et des japonaiseries, je retiens une cabine sur le Belgrada, un paquebot en destination de l'Inde. Mais rien ne presse. J'irai me promener le long du Gange et de l'Ongui. J'irai me baigner dans les ondes jaunâtres du Brahmapoutre. C'est entendu. Mais pas avant d'avoir visité la Chine. Partout il y a de l'argent à gagner. Et sous ce rapport, l'Empire des Célestes n'est pas le pays le plus mal loti. Et il paraîtrait que les Chinois ont poussé très loin l'art de s'approprier l'argent des autres. Ils ont des méthodes assez déconcertantes, à la fois très compliquées et très naïves. Mais dans ces choses-là, comme du reste en tout, il n'y a que le succès qui compte. J'avais noté dans ma mémoire quelques adresses de bons garçons, adresses que m'avaient fournies les copains à qui j'avais parlé de mon intention d'aller faire un tour en Chine et dans l'Inde. Sur ce dernier pays, Mrs. Thompson m'avait fort bien enseigné. J'ai dit précédemment qu'elle en était originaire. Il ne me sera pas utile ici de faire remarquer que c'est dans ma mémoire que je garde les adresses des gens de la partie. Il est si agréable, si utile et parfois même indispensable d'y pouvoir recourir quand on voyage dans un pays qu'on ne connaît pas. Dans ma mémoire et non pas inscrite sur un calepin. Il faut avoir foi dans sa chance. On doit pouvoir se fier à sa prudence et à son habileté. Mais tout de même, en partant, on ne sait ce qui vous attend à l'arrivée. Et si l'on tombe entre les mains de la police, qui vous fouille, examine, détruit, soupçonne, arrête ou tout au moins inquiète, tous ceux qui de près ou de loin lui semblent avoir quelque accointance avec l'homme qu'elle a saisi. Pourquoi, de gaieté de cœur, s'exposer à compromettre des gens avec lesquels on désire nouer ou conserver de bonnes relations? Donc, je conclus. Une bonne mémoire, voilà qui doit nous servir de registre, un registre bien tenu et à l'abri des indiscrets. Me voilà dans une rue tortueuse, dans le méandre boueux et infect du vieux Shanghai. Ça sent le musc, le santal et l'autre odeur que je ne veux pas nommer, bien qu'en France la chose qu'il exhale passe pour porter bonheur. Je suis fort affairé. Beaucoup de ces Chinois parlent quelque peu l'anglais, mais ils prononcent les mots d'une manière si bizarre pour mon oreille que j'ai de la peine à les comprendre. Heureusement, la pantomime complète le langage. Et ils ont le geste abondant et fort explicite. C'est là. J'entre et je manque de tomber à la renverse, suffoqué par cette odeur qui, ici, dans cette maison, est plus forte que dans la rue. Un quidam jaune à la longue tresse noire qui lui pend dans le dos me regarde et attend que je formule le but de ma visite. Monsieur Hanglipou, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur, à qui ai-je l'honneur? C'est dit, ma foi, en fort bon anglais. Je suis Raymond, c'est monsieur Davy. Oh, Smoky Davy, lui-même. Très bien, oh, donnez-vous la peine d'entrer. Du thé, de l'ira, l'arak, du whisky. Oh, ce que vous voudrez. Et il s'empresse, se démène, et nous causons. C'est un gentil garçon, mais il voit en petit. Ça n'est pas mon genre. Je lui explique que je ne prends rien aux petites gens. Je préfère leur donner. Or, ce qu'il me faut, c'est une grosse affaire. Sinon, je ne me dérange pas. Il ouvre les yeux tout grands. Je vois bien qu'il ne me comprend pas. Et je trouve inutile d'insister. Parlons d'autre chose, voulez-vous? Non, il ne veut pas parler d'autre chose. Sûrement que nous ferons quelque chose ensemble. Je dédaigne de relever son affirmation. Je suis sûr que je ne ferai rien avec ce médiocre. Il reprend. Ce soir, je vais dîner dans le monde. Je vous emmène. C'est chez un ami. Vous n'êtes pas curieux de dîner à la canne chinoise chez un Chinois? Ah, oui, ça c'est intéressant. Et j'accepte. Nous voici dans une maison chinoise et je jette un coup d'œil sur la table recouverte d'une nappe blanche. Je suis refait. Il y a là une série de verres, du vin. Il y a des fourchettes, il y a des couteaux. Des fourchettes chez un Chinois. Mais qu'est-ce qu'on va nous servir? On apporte un potage de queue de bœuf, un roast beef et du pudding. Ma parole, on se croirait dans une coupe-choque de Londres. Mais Hanglipou me jette un regard complice et subrepticement, il fait disparaître dans la poche de sa veste un découvert, fourchette et cuillère. Ils sont en argent. Et il semble m'inciter à l'imiter. Ah, c'est comme ça. Oh, tu vas voir, mon vieux. Je vais te donner une leçon dont tu pourras faire ton profit. On s'attable. On cause modérément d'abord, puis avec plus d'animation. Nous sommes entre hommes. Une dizaine de convives qui tous savent l'anglais et le parlent par déférence pour moi. Je leur raconte des histoires qui les font rire. Et incidemment, j'insinue que je sais faire des tours d'escamotage assez réjouissants. Ils me demandent tous de les gratifier d'un échantillon de mon savoir-faire. Je me fais un peu prier, puis tranquillement, je prends un couvert en argent sur la table, cuillère et fourchette, et je mets ça dans ma poche. Je lève la main, je fais claquer un doigt contre ma paume. J'ai mis un couvert dans ma poche, eh bien, il n'y est plus. Il est maintenant dans la poche de notre ami Hanglipou. Et Hanglipou, furibond et décontenancé, dut restituer le couvert volé, sans que du reste aucun de ces crédules chinois y soupçonnait son méfait. Je pris mon temps et, à la dérobée, je remis sur la table le couvert que j'avais dû garder dans ma poche après le tour de passe-passe. Nous sortîmes de là et je vis bien au silence de Hanglipou qui n'était pas content. Nous échangeâmes pas un mot jusqu'à ce qu'arrivait avant mon hôtel dans le quartier européen. Il voulut prendre congé. ce que je ne tolérerai point. Non, mon cher ami, nous avons à causer sérieusement. Montons, montons chez moi et prenons quelque chose de bon, du punch à l'arak, je sais que vous l'aimez. Sans plus de cérémonie, il m'emboîta le pas. Mais toujours sans se départir de son mutisme. Il était rancunier, ce bonhomme jaune. Ce qui ne me déplaisait pas, car on a toujours les qualités de ses défauts. Quand bientôt on ne pense plus une injure, on oublie tout aussi vite un bienfait. Un homme sans rancune est toujours doublé d'un ingrat. Il semblait fâché, mais aussi très penaud. Je me mis à rire, ce qui n'était pas fait pour le remettre d'aplomb. Je ne sais pourquoi je pensais à ce moment à une scène à laquelle j'avais assisté à Paris, bien que cela n'eût aucun rapport avec la circonstance du couvert volé et restitué. Et pour expliquer mon rire, je lui racontais l'histoire. C'était à Paris, devant la gare Saint-Lazare, à la terrasse d'un café. Parmi la foule des consommateurs, il y avait un campagnard facilement reconnaissable comme tel, à son accoutrement, à son bâton à lanière de cuir et surtout à son aptitude. Il ne parlait à personne, vidait son boc à petites gorgées espacées, regardait le mouvement intense de la rue. À côté de lui se trouvait une superbe valise de cuir jaune, une valise de gentleman. Vint à passer quelqu'un qui jeta un regard d'envie sur la valise, scrutateur aussi sur le paysan. Je compris et je me mis à observer. Le passant vint s'asseoir à la table où le paysan consommait. La conversation s'engagea, et le nouveau venu tira de sa poche une pièce de 100 sous. « Voulez-vous aller chercher des skigards dans le bureau là-bas en face? Comme cela, nous pourrons fumer. Ne vous inquiétez pas de votre valise, je la garderai. » Le paysan resta indécis un moment, contempla la pièce de 100 sous, la mit dans sa poche et s'en alla. L'homme qui voulait fumer n'avait point menti. Il entendait garder la valise, car il l'empoigna et se mit à devoir de l'emporter. Mais quelqu'un troubla la fête. « Hé, l'ami, laissez donc là sa valise !» En effet, elle n'appartenait pas au paysan madré qui lui avait gagné 100 sous dans l'affaire et économisé le goût de son boc. Quant au légitime propriétaire de la valise, c'est un homme irritable, prompt à se monter. Et sans vouloir admettre les pieuses et piteuses excuses du maladroit voleur, il appela un agent et le fit arrêter. « Voilà, concluai-je, mon cher Langpou, un exemple à méditer. Ne forçons point notre talent, ne ferions rien avec grâce, a dit un poète français. » Quand on n'a pas l'habileté et le tact de voler avec habileté, il faut savoir rester honnête. Cette exhortation n'eut pas le don de lui plaire. Il n'en devint que plus renfrogné. Je vis qu'il était temps de mettre fin au jeu, si je voulais, de ce bon apôtre, me faire un irréconciliable ennemi. « Écoutez-moi bien, Anglipou, vous m'avez fait part de votre désir que nous fassions quelque chose ensemble. Je ne demande pas mieux, mais je voudrais d'abord vous convaincre de cette vérité qu'il est aussi facile de gagner beaucoup d'argent que d'en gagner peu. D'abord, les risques sont moindres. La police laisse passer le gentleman correct et bien mis qui, avec une jolie femme en grande toilette, se prélasse dans une voiture de remise Et comment soupçonnerait-elle cet homme d'avoir opéré tel cambriolage qui a mis toute la ville en rumeur? Et au contraire, le pauvre cambrioleur, pâle de faim, mal peigné, vêtu de haillons, est épié, surveillé, et on ne tarde pas à le prendre sur le fait en train de travailler. Croyez-moi, n'entreprenez que ce qui en vaut la peine. Et surtout, n'allez pas voler des bagatelles chez des amis confiants, heureux de vous recevoir à leur table. Comme il persistait dans son silence, et touchait à peine au verre que je venais de lui servir, je repris négligemment. On assure que les Chinois ont de grandes aptitudes au commerce. Il dressa l'oreille, puis il dit simplement. Oh, notre réputation n'est pas surfaite, mais pourquoi me dites-vous ça? Oh, pour rien, pour changer de conversation. Oh non, vous devez avoir un but. Oh, j'ai quelques capitaux qui ne font rien, je voudrais les faire fructifier. Oh, on pourrait monter une maison d'usure, prêter aux petits commerçants, à la petite semaine. Oh, j'aime pas beaucoup ça, non, 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 ça ne me tente pas. Oh, pas du tout, non. À dire vrai, si je veux gagner de l'argent, avec le libre consentement de celui qui en est le défenseur, je voudrais autant que possible rester dans la légalité. Fort bien, alors j'ai votre affaire. La spéculation vous convient-elle? Ah, tout à fait. Et mes instincts de joueur me chatouillèrent le cerveau. La spéculation. Mais c'est encore du jeu. Un jeu aussi hasardeux que les cartes, mais plus varié dans les conceptions, dans ses phases diverses. Et la partie dure longtemps. L'émotion moins vive, moins concentrée, n'en persiste pas moins au silence sinnante, si ce n'est plus. Anglipou expliqua. Vous savez que chez nous, on se bat toujours quelque part, si ce n'est dans le nord de ces vastes empires, c'est dans le sud. Eh bien, il se prépare quelque chose comme les Mandchous. Une armée de rebelles s'organise contre l'arme du gouvernement. Du gouvernement. Il va falloir du riz pour alimenter les soldats, du coton pour les vêtir, de la poudre. Oh, pas de poudre, m'écriai-je. Comment, vous voulez dire qu'il ne leur faudra pas de poudre? Avec quoi se battront-ils? Cela m'est égal. Je veux dire que je n'achèterai pas de poudre. Je ne me soucie pas d'être fusillé avec ma propre poudre. Et puis ça saute trop facilement. L'assurance exige une prise bien trop forte. C'est vrai, mais le riz et le coton devront suffire. Je prévois une hausse qui nous haussera un bénéfice. Il se frappa le front. Mais sot que je suis, je dis nous. Et moi, je n'ai pas une messe à pic, monnaie chinoise valant un demi sans continuer à risquer. Voyons, Anglipou, c'est pas sérieux ce que vous venez de dire là. Comment c'est vous qui avez l'idée, elle ne vous rapporterait rien? Et pour qui me prenez-vous? Il me regarda avec une surprise non déguisée, et je poursuivis. Part à deux. J'engage mon capital, mais vous apportez l'idée et votre travail, car il va falloir s'informer et saisir le bon moment de réaliser. Alors nous partageons le bénéfice, moitié pour moi, moitié pour vous. Ça va? Il me serra la main avec force et déclara. Décidément, j'ai de la peine à vous comprendre. Vous êtes un voleur et, on peut le dire, le prince des voleurs. Avec ça, votre loyauté est admirable, mais comment faites-vous donc? Oh, ce serait long à vous expliquer, répondis-je, à ce singulier compliment. Mais examinons la chose de suite. Serait-il pas utile de nous associer avec des négociants chinois connus dans le monde des affaires? D'abord, cela écarterait les soupçons que les autorités ne manqueront pas de concevoir si vous, qui êtes connu pour manquer de capitaux, ou moi, qui viens de débarquer, accumulions du riz et du coton, attendant la hausse que les troubles dont vous me parlez font seuls produire, revoir. Oui, juste, oui, et de plus, pour agir, régir le marché, accaparer les gros lots de marchandises, il faudra beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous comptez mettre? Oh, 500 000 taels, 2 750 000 francs. Hein? Vous êtes si riche? Ah oui, je le reconnais. Votre méthode doit être la bonne. Désormais, je mébriserai le petit butin. Eh bien, vous ferez. Alors, connaissez-vous des commerçants qui s'associeraient avec nous? Certes, d'abord l'ami de chez qui nous sortons de toilette dîner. Et vous voulez lui voler un couvert d'argent? Oui, j'ai eu tort. J'abdique mes erreurs entre vos mains. Ted Simong et cet ami pour apporter une somme égale à celle que vous mettez dans l'affaire. Ben allons-y demain matin, voulez-vous? Ted Simong s'enthousiasma. Il objecta seulement que le capital était encore insuffisant, qu'il allait falloir acheter directement aux producteurs la récolte sur pied et payer le tout avant de réaliser. Mais c'était une difficulté nettement surmontable. Si je consentais à accepter encore deux associés de ses amis, les amis aussi des Chinois acceptèrent. Et me voilà propriétaire d'un quart de hangar, avec un quart de tas de riz et un quart des balles de coton qu'on y avait emmagasinées. Car, selon la coutume chinoise, et à nous quatre, nous étions liés l'un à l'autre pour l'achat et pour la vente. Tout de même, la marchandise se trouvait divisée en quatre lots, chacun attribué à un des quatre associés. C'est absurde, parce qu'inutile, mais chaque pays a ses usages. Et de même qu'il faut hurler quand on est avec les loups, il faut chinoiser quand on est avec les Chinois. J'acceptais donc cette clause, de même que les autres clauses du contrat, sans élever la moindre objection. Mais il arriva bientôt que les rats infestèrent le hangar et se mirent à dévorer notre riz, à grignoter le coton. Nous assemblâmes et décidâmes l'emplette d'un chat. C'était idiot, à mon avis, de nous réunir gravement pour un objet de si mince importance. Mais encore une fois, je réfléchis à temps que je me rendais ridicule si j'avouais ne rien comprendre aux usages courants. Il y a tant de choses dans les pays d'Europe et d'Amérique qu'un Chinois à bon droit peut trouver absurde, et il ne marque pas son étonnement. Allais-je être moins poli? Je me tus, je consentis à payer le quart d'un chat. Mais je ne devais pas être au bout de mes surprises. Nouvelle convocation, nouvelle réunion. Cette fois au hangar pour la réception du chat. Une bête superbe de la grande espèce, un matou, vigoureux et combatif. Puis, tout comme pour le magasin, tout comme pour la marchandise, partage du chat en quatre. Parfaitement. Bon, je ne dis pas que le chat fut coupé en quatre. La chinoiserie n'alla pas jusque-là. Non. On tira au sort les membres antérieurs et les membres inférieurs postérieurs. Et le hasard m'attribua la patte gauche de devant. Me voilà propriétaire de la patte gauche antérieure d'un gros matou. Ah, mais cela devenait amusant. Ce qui le fut beaucoup moins, c'est que ce chat, s'il examina consciencieusement la gent rongeuse qui dévastait nos richesses, n'encourait pas moins le guilledou dans les gouttières chinoises et chabardait toutes les friandises portées de ces pattes dont une m'appartenait en propre. Si bien qu'un beau jour, il revint au hangar avec cette patte cassée en deux endroits. Claquement de mâchoire d'un rival en amour. Coup de bâton de quelqu'un qui n'avait pas voulu se laisser prendre son bien, peu importe. L'essentiel, c'est que la pauvre bête, fort mal en point, revint ainsi au logis. C'est au hangar, enfin, que je veux dire. Je fus averti, j'accourus. Compatissant, je lavai la patte malade, je l'enduisis de colodon, je la mis entre deux éclisses et je la bandai fort proprement. Et ce gueux de chat n'en continua pas moins de faire la fête. Galopant sur trois pattes, il s'échappait la nuit, miaulant sa plainte d'amour. Et il rentra au hangar, affolé, la patte en feu. Quelle friponnerie nouvelle lui avait valu cette mésaventure? Avait-il tenté d'un vrai coup de patte de faire tomber un rôti en train? Et le voisinage du foyer incandescent avait-il fait flamber le collodion? Quoi qu'il en soit, ce météore en ignition, bondissant parmi nos salles de coton, y propagea l'incendie. Et en quelques minutes, le désastre fut consommé. Du hangar en bois de nos marchandises, il ne restait que des cendres. Mais le plus beau était encore à venir. Dans notre contrat d'association, il avait été stipulé que toute contestation entre nous serait soumise à la juridiction chinoise. Me voilà devant le juge et mes trois associés, demandant que je sois condamné à les indemniser de leurs pertes. Car, plaident-ils, je suis responsable de la patte du chat qui a mis le feu au hangar. C'est la patte gauche intérieure, celle qui m'a été dévolue par le sort. L'interprète me traduit cette bizarre requête et, sur l'injonction du juge, me demande ce que j'avais à répondre. Ceci, et traduisez-le fidèlement. C'est en effet ma patte qui a mis le feu au coton. Mais comment avait-elle pu le faire si les trois pattes de mes trois associés me l'y avaient porté? Donc je demande à ce que les trois pattes valides, celles qui galopaient, soit déclaré responsable du sinistre et que mes vols associés soient solidairement condamnés à m'indemniser de la perte que j'ai faite du suite de leur partie du chat. C'est fort juste, prononça le juge, qu'il en soit ainsi. Et voilà comment je me défendis contre l'astuce chinoise. Mais cette aventure où j'avais failli laisser tout mon avoir me dégoûta de la Chine et des Chinois. J'allais consulter la Shipping Gazette. Elle m'informa que le Belgravia, le paquebot qui m'avait transporté de Yokohama à Shanghai, se trouvait de nouveau dans le port en charge pour les ports de l'Inde. Je courus retenir mon passage. Mes associés ne m'avaient fait aucune difficulté pour opérer le paiement auquel le juge les avait condamnés. Car, il faut en convenir, Si la chinoiserie est risible, elle devient admirable dans la procédure. Celle-ci, nette, expéditive, ne souffre pas la lenteur. À peine la sentence est-elle prononcée, que l'exécution suit. N'avais-je pas raison de soutenir que les Chinois trouvèrent chez nous de quoi se moquer et rire? Me voilà donc embarqué et en route. À Singapour, dans le lot de passagers qui embarquent, je vois un, par ici, un adorateur du feu.